Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois. Je suis en compagnie de Philippe Levenberg et Pierre Gautrenot, tous deux membres du groupe À Gauche pour Dit, conseillers d'opposition à la ville, qui sont venus à la radio parler du budget. Ils ne sont pas venus en réponse à Yves Etré qui a fait un flash mairie info très récemment, mais qui par contre ont sûrement des choses à dire sur le budget. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
En préalable, moi je voudrais d'abord remercier Radio Divois, notamment puisqu'il y a eu plusieurs tribunes de flash info pour la majorité municipale et pour que les gens comprennent bien notre position et pourquoi on est là aujourd'hui. Je pense que quand il y a des flash info de la majorité municipale ou Yves Etré qui vient expliquer le budget, ça fait part d'un point de vue sur la vie de la commune. La démocratie, c'est la diversité et notamment la diversité des points de vue. Et pour que les citoyens puissent se faire une opinion de ce qui se passe dans leur ville et de ce qui se passe même au-delà de leur ville, je pense qu'il faut qu'ils aient connaissance de la diversité des points de vue. Nous, notre posture, c'est celle d'un groupe d'opposition nommé À Gauche pour Dit, présente au conseil municipal, qui n'a pas forcément les mêmes points de vue que le groupe majoritaire qui est le groupe de M. Berginat. Ça arrive aussi qu'on vote pour des projets et ça arrive qu'on vote contre. On l'argumente toujours et c'est un peu ce qu'on est venu expliquer aujourd'hui dans cette émission de radio. Voilà.
Alors j'en profite pour rappeler quand même que originellement, si ce projet de Flash Mairie Info a été lancé par la mairie, il était ouvert effectivement à d'autres groupements de gens qui pourraient même voir d'autres mairies qui auraient voulu s'exprimer. Et d'autre part, si on observe un petit peu les sujets qui étaient traités, ils étaient quand même plutôt consensuels du style, par exemple, l'école de musique de Dit, voir comment fonctionnent les services techniques. Si vous aviez eu envie de vous exprimer sur l'école de la musique, vous auriez été les bienvenus d'ailleurs. Et un dernier petit rappel, c'est que la radio n'a plus le temps, on n'a pas tellement le temps de courir après les gens. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous exprimer, même sur le budget, s'il y a encore des gens qui veulent réagir sur le budget, vous êtes tellement les bienvenus. Alors, peut-être qu'on pourrait recommencer par recadrer comment ça se goupille un budget dans une mairie. Peut-être que vous êtes plus compétent que moi, vous parlez des débats d'orientation budgétaire, comment ça se passe?
Alors, le débat d'orientation budgétaire, pour bien expliquer aux gens, a toujours lieu avant le vote du budget. C'est un grand débat d'orientation, comme son nom l'indique, où la majorité présente les projets qu'elle veut développer l'année suivante à travers les programmes, et le groupe d'opposition s'exprime pour ou contre avec ses arguments. Cette année, au débat d'orientation budgétaire, il y avait notamment le projet des places publiques qui a beaucoup fait couler d'encre et beaucoup fait parler les Diois. Pour nous, ce qu'on aurait souhaité défendre, c'est plutôt un projet de maison associative ou alors un projet de la place quartier Saint-Pierre devant le collège où il nous semble qu'il y ait plus d'urgence puisque c'est l'entrée de Dit. C'est un endroit où circule un grand nombre de lycéens, de collégiens tous les matins. Les bus, les voitures, il y a un centre commercial à côté, il y a l'entrée de l'hôpital de Dit, et la place n'est pas très très jolie, on va dire, donc il nous semblait que ça aurait été une priorité plutôt que la place publique. Après, il y aura d'autres priorités, mais il y a le budget, peut-être que Pierrot peut expliquer comment se passe le budget.
Oui, alors d'abord, avant de parler du fond, des chiffres et donc des orientations qui en découlent, moi je pense qu'il est important de parler de la forme, de la manière dont s'est déroulée cette préparation du budget cette année, où il y a eu la volonté manifeste de la majorité municipale de ne pas faire participer l'opposition du tout à cette préparation. Déjà, l'année d'avant, il n'y avait eu que 2 commissions finances à la veille du vote du budget. Alors nous avions demandé qu'on ait les documents beaucoup plus longtemps à l'avance pour pouvoir les analyser. Et là, en fait, c'était encore pire cette année, alors que j'avais bien redemandé au conseil municipal avant. J'avais solennellement demandé au maire qu'on ait les documents dans les temps pour pouvoir les travailler. Et en fait, la commission finance a eu lieu le 4 avril et on a reçu les documents chez nous le 6 avril. Ils avaient été postés que le 3, donc de toute manière, on ne pouvait pas les recevoir avant, puisque le courrier d'abord part à Valence avant de revenir à Dit. Voilà.
Ce qui fait que pour le vote du budget, vous n'aviez aucun élément.
Non, pour la commission pour finance. La commission. Pour la commission finance.
Pierrot, il faut bien comprendre que avant chaque conseil municipal, il y a des commissions qui se réunissent où sont conviés les élus de la majorité et de l'opposition. C'est des réunions plus techniques où on discute des projets qui vont être votés en conseil municipal. C'est l'occasion de poser des questions, d'avoir des précisions sur ce qui va être voté avant qu'il y ait un débat au conseil municipal, qu'il y ait un débat public.
Voilà, donc pour vous situer un petit peu la complexité de l'affaire, on reçoit à peu près 200 pages de chiffres pour le compte administratif, donc qui correspond à ce qui s'est passé l'année d'avant, ce qui a été réellement dépensé l'année d'avant. On reçoit autant 200 pages pour le budget qu'on doit voter après. Donc on n'en a même pas ces documents avant, cette commission finance n'en a servi strictement à rien. Et il a fallu donc qu'on travaille soit même de son côté, l'opposition, le week-end pour pouvoir être prêt à voter le budget le mercredi d'après, quoi.
Ce que veut dire Pierrot en filigrane, c'est nous, on est un groupe d'opposition. Mais on n'est pas là pour s'opposer, parce que le nom groupe d'opposition ne correspond pas vraiment à la posture réelle qu'on peut avoir au sein d'un conseil municipal. On reste des conseils municipaux au service de la population. Donc notre objectif, c'est d'avoir tous les éléments qui sont à la disposition des conseillers municipaux, enfin qui devraient l'être, pour pouvoir faire avancer les propositions, éventuellement les contrer, mais aussi, parfois sur certains projets, les faire avancer dans le bon sens. Mais on ne peut le faire que si on a les éléments. Tout à l'heure, je disais, on vote parfois pour et parfois contre. Ça arrive qu'on vote pour des projets parce qu'ils sont bons, ils ne sont pas partisans, identifiés de droite ou de gauche ou dans des querelles politiques comme ça. Ils sont au service des Diwa. Et c'est vrai que quand on en a connaissance, ça permet d'avancer des propositions. Je pense par exemple au vestiaire qui va se faire à côté du stade de foot. On a eu quelques éléments, un peu plus d'éléments au conseil municipal. On a demandé à ce qu'il y ait, par exemple, des chauffe-eau solaires, un bâtiment isolé, tant qu'à faire un bâtiment public, autant que ce soit un bâtiment exemplaire. On n'a pas été entendu. Le résultat des courses, c'est qu'on a un bâtiment qui sera sous-financé par notamment l'Europe, puisque eux ont des demandes d'avoir des bâtiments passifs ou économie d'énergie, le plus exemplaire possible. Et du coup, on va avoir une construction banale. Voilà, nous, on avait fait des propositions à partir des éléments qu'on a, quoi.
C'était peut-être plus cher, non ? Plus c'est HQE, plus c'est cher, non ?
Ça aurait été peut-être un peu plus cher, mais ça, on aurait pu le savoir si on avait été entendu, on aurait pu faire une étude et essayer de voir si l'investissement aurait peut-être été un peu plus cher, encore que des chauffe-eau solaires, ça ne coûte pas excessivement cher. Isolé aujourd'hui, on sait faire, ça ne coûte pas excessivement cher. Si on le fait dès le départ, puisqu'on a une nouvelle construction, puis on est quand même au 21e siècle, où tout le monde a entendu parler de réchauffement climatique, des enjeux environnementaux existants. Et surtout, ce qui compte pour une commune, c'est que peut-être faire un investissement un peu plus cher permet ensuite d'avoir un coût de fonctionnement bien moindre. Et ce qui est important dans le budget d'une commune, c'est le budget de fonctionnement. Plus il est faible, plus on peut investir les années d'après sur d'autres projets. Donc si vous avez un bâtiment qui vous coûte quasiment rien en électricité ou en chauffage, ça permet de mettre de l'argent ailleurs.
Alors on va peut-être se tourner vers le spécialiste, à savoir Pierre Gautrenot, pour faire une petite visite guidée de votre conception des finances communales.
Oui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres parce que je pense que ce n'est pas le but de cette émission. Je vais parler juste un peu des grandes masses. Donc, vous savez, il y a plusieurs budgets dans une commune. Il y a d'abord le budget général de la commune. Et après, il y a des budgets annexes qui sont spécialisés. Il y a un budget pour l'eau, un budget pour l'assainissement, un budget pour le camping, un budget pour les lotissements. Voilà. Donc, le budget de l'année 2011 avait été assez ambitieux avec un budget de 8 millions d'euros et en fait, il ne s'est rien réalisé pratiquement dans l'année. Donc les restes à réaliser étaient énormes, étaient de 50% pour le budget général, étaient de 60% pour l'assainissement et de 70% pour l'eau. Voilà. Donc quel intérêt de voter un budget ambitieux de 8 millions d'euros si on ne réalise rien, quoi. Voilà. Deuxième chose, la gestion a été catastrophique d'un point de vue trésorerie. Puisque donc des emprunts avaient été prévus au budget et ont été réalisés, alors qu'en fait donc les travaux n'ont pas été faits, donc les dépenses n'ont pas été effectuées. Donc in fine, le compte de la commune s'est trouvé crédité de 2,5 millions d'euros au 31 décembre 2011, et donc ça correspond donc à des sommes donc qui ont bien évidemment été empruntées et donc sur lesquelles donc la commune donc paye des intérêts. Donc c'est vraiment, d'un point de vue gestion de trésorerie, c'est vraiment catastrophique. Si on gérait une entreprise privée comme ça, elle ne tarderait pas à couler, quoi. sachant que déjà le taux d'endettement de la commune en 2010 avait augmenté de 77%. Donc voilà, après, pourquoi pas faire des emprunts si ça correspond à une réalité, si ça correspond à des travaux qui sont intéressants pour la collectivité et les citoyens. Mais là, donc, les emprunts ont été faits et il n'y avait aucune dépense en face.
Sans vouloir rentrer dans la polémique, mais ceci dit, pourquoi ces investissements n'ont pas été réalisés? C'est parce qu'il y a eu des petits détails qui ont fait en sorte que ça prenne du retard ou... Effectivement, c'est relativement logique que quand on commence à emprunter, c'est pour dépenser. Donc pourquoi ça n'a pas été dépensé alors?
Et ben ça, c'est une question qu'il faudrait poser donc, aux membres de la majorité, aux différents adjoints. Nous, n'étant pas associés à la gestion quotidienne de la commune, moi, je ne peux absolument pas répondre.
Quoi. Oui, mais vous êtes en contact avec eux. Vous avez de temps en temps des conversations. Vous savez un petit peu... Vous ne savez pas?
Non. D'accord. Non, absolument pas. Non.
Je crois qu'il manque un outil à la commune. Enfin, c'est une des raisons, une des explications. Il manque un outil qui permettrait de savoir combien on a en trésorerie, combien on a sur notre compte, quoi, pour se dire, bon, puisqu'on va avoir... telle dépense, on a besoin de tant d'argent. Si on ne sait pas trop, on se base sur le budget, qui était très ambitieux au départ, mais il suffit qu'il y ait un bureau d'études qui rende son travail avec 2 mois de retard, qu'il y ait une entreprise qui ait un peu de retard. Enfin, il peut y avoir des retards dans les budgets, ça se comprend, mais à ce moment-là, il faut pouvoir calculer combien on a réellement besoin pour emprunter ce dont on a besoin. Dans votre budget familial, vous n'allez pas emprunter 10 000 euros pour acheter quelque chose si vous ne l'achetez pas. Donc vous gérez au plus proche pour éviter de payer des intérêts aux banques qui, en ce moment, certes, ont besoin d'argent, mais ce n'est pas de notre poche que l'argent doit sortir.
Voilà, donc pour en revenir donc un peu sur ces grandes masses du budget, donc comme le faisait remarquer Philippe, nous ne sommes pas une opposition systématique et donc nous avons voté pour le budget eau, parce que spécialement, donc il faut absolument rénover toute l'adduction d'eau de la commune, donc il va encore y avoir des gros travaux. Le captage de la source de Raïs a été fait l'année dernière, on avait déjà voté pour, et maintenant nous avons voté pour, évidemment, pour que la conduite puisse descendre, soit rénovée pour descendre à 10. Et nous avons aussi voté pour le budget assainissement, parce qu'il y a des gros travaux en cours qu'il faut continuer. Par contre, nous avons voté contre le budget général, entre autres justement pour cet énorme financement qui est mis sur les places avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons voté contre le budget lotissement parce qu'il n'est pas suffisamment clair. Et pour nous, entre autres aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y aura exactement comme logements sociaux. Voilà, mais enfin ça...
À Champ-Queyras ?
Le quartier Champ-Queyras, oui, le lotissement Champ-Queyras. C'est vrai qu'on a du mal à voter pour des projets quand on n'a pas d'informations. Et on a du mal à avoir des informations, même s'il y a des réunions publiques qui distribuent un peu d'informations. Mais nous, on demande à ce qu'il y ait des informations en commission, en conseils municipaux, pour savoir exactement, par exemple, qui vont être les organismes privés ou publics qui vont construire des logements, qui vont les louer, quelle part de logement social. Quelle part de logement social en accession à la propriété, quelle part de logement privé, enfin, toutes ces informations, on ne les a pas et on sent pas, enfin, on n'a pas non plus un véritable diagnostic qui permettrait de dire on a besoin de 250 logements ou on a besoin de 50 logements. Parce que le projet est de construire un peu plus de 200 logements, donc il nous semble que ça fait beaucoup. Et d'où vient ce chiffre? Pourquoi 200 et pourquoi pas 2000 et pourquoi pas 40? Si on n'a pas de diagnostic, alors il y a eu un diagnostic du CIE, paraît-il, mais on ne l'a jamais vu. Donc c'est vrai qu'on a du mal à voter pour, même si c'est une demande que notre groupe fait depuis plusieurs années, qui est une construction de logements sociaux sur 10, puisqu'il manque de logements sur 10. Ça, on le sait par contre, on a beaucoup de logements en centre-ville qui sont insalubres, on a beaucoup de demandes de logements. La demande a aussi évolué dans les 10-15 dernières années, où on est passé de demandes de famille, donc avec des besoins pour 4 ou 5 personnes, à des demandes de couples ou de parents isolés avec un enfant, ou de jeunes tout seuls, beaucoup de jeunes tout seuls, ou de personnes âgées toutes seules. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, quoi ? Voilà.
Si je vous entends bien, il existe un déficit de communication entre la majorité et l'opposition au sein de l'équipe municipale d'Audi, qui pourrait être préjudiciable à une bonne gestion des projets de la ville d'Audi ?
Alors, sur certains projets, oui, effectivement. Il y a un manque de partage des informations. Il y a d'autres projets où on a suffisamment d'informations. Je pense notamment, Pierrot parlait de l'eau tout à l'heure. On a eu un diagnostic sur l'eau, on a des éléments. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, il me semble qu'on pompait 1 200 000 m3 d'eau sur la source de Raï, qu'on en vendait un peu plus de 300 000, c'est-à-dire qu'il y avait une perte entre la source et la vente, enfin, et nos robinets de 700 ou 800 000 mètres cubes. C'est de l'eau qui n'est pas perdue puisqu'elle repart dans la nature, mais par contre, on la paye à la source, on paye à l'agence de l'eau. La conduite avait plus de 70 ans, elle a des trous de partout. Il y avait même un danger, notamment pour l'hôpital, qu'à un moment, il y ait une rupture d'eau, ou pour d'autres quartiers de la ville. Donc c'est vrai que là-dessus, on sait, on a des informations. Évidemment, on vote pour ces projets de restructuration, même si ce sont des projets qui sont très chers, puisque sur la conduite, on a un programme de 3,5 millions d'euros. Sur l'assainissement, il y a aussi un programme de 3,5 millions d'euros annoncé, qui sera peut-être plus, qui sera peut-être moins, mais on sait que c'est des urgences pour la population, donc on vote pour. Après, il y a d'autres projets, effectivement, le lotissement Champ-Queyras ou le projet de place publique, on a eu du mal à avoir toutes les informations, on a fini par les avoir. On a fait évoluer le projet aussi, puisque le projet de départ, moi j'ai appelé ça un projet Photoshop, hein, c'était une place banale comme on voit dans toutes les villes du sud de la France où viennent les touristes. On a réussi à en faire enlever les trottoirs qui pénalisent les personnes handicapées, les fontaines sèches où on ne peut pas boire, à préserver les arbres, à enlever les barrières. Voilà, on a réussi à faire avancer le projet, même si on est contre, on réussit à faire avancer quand même, quand on a les informations.
Et je vous propose d'écouter sans transition How Many Takes It Takes par le groupe Van Davir, extrait de leur disque Grace and Speed de 2007. Go swimming in the deep end, I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable. The current sweeps you out to sea and it keeps you guessing helplessly. You're praying for a savior who's exceptional. Someone who'll lift you from your knees and save your wounds, hand you the keys and offer you the kingdom of your dreams. But nothing's ever as it seems. You find yourself further downstream alone, save for the echoes of your screams. Ah, oh, honey, fairy tales are prone to tease. Candles burn you warm and safe. You lock your door, control your space, and curtains drawn. You think that you're impenetrable. But demons, they don't live outside. They burrow deep where they can hide. Inside a safe, you will still feel vulnerable. You draw a bath and pour some wine. You drink yourself into another time where you feel truly free. Water's rising overhead and you wake to find yourself in bed. You're gasping for breath that's hard to breathe. Ah, oh, honey, dreams are really what they seem. Oh, however many takes it takes. Well, step outside into the sun. Let it dry your eyes and run around. Feel the warmth underneath your skin. Clouds will soon move in again. You can't expect to always win. You got to take it as it comes. The marching bands and beating drums play familiar songs for the alum. We all got scars, but we don't like to show them. Sometimes it's better to be strong. We all got to be moving on. You got to walk a million miles. Ah, oh, honey, go walk 'em with a smile. However many takes it takes. Vous écoutez toujours RDWA, un interview avec Pierre Gautrenot et Philippe Löwenberg qui, pour le groupe À Gauche pour Die, ont souhaité s'exprimer sur la vie politique locale en ce moment. Pierre, lorsque tu dis que certains éléments comptables vous ont été transmis tardivement, n'y a-t-il pas une certaine déontologie qui règle les échanges de documents de travail entre les différentes composantes de l'équipe municipale ?
En matière de vie associative, lorsqu'on doit convoquer une AG, il y a des délais minimums.
Mais non, c'est quand même grave, parce que quand même, là, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une masse de chiffres énorme, quoi. Donc, il faut quelques jours, quand même, et puis donc, il faudrait que, justement, le rôle de la commission, normalement, le rôle d'une commission, c'est qu'on doit avoir les documents pour, justement, poser les questions à l'adjoint qui s'occupe, bon, soit des travaux, soit des finances, soit de... voilà, pour qu'il puisse nous répondre et qu'on ait vraiment, donc là, les éléments. Et quand on arrive dans une commission sans avoir les documents et 400 pages de chiffres à lire, c'est impossible, quoi. Voilà.
Après, pour revenir sur le projet de passe publique, le manque d'informations, c'est effectivement, on a eu un grand manque d'informations. J'avais posé la question peut-être 3 fois dans le même conseil municipal et puis après à d'autres occasions. Quel financement, quels sont les cofinancements de la place publique ? Parce qu'il me semble que c'est important, sur un projet de cette ampleur, de savoir quelle est la part de la commune et quelle est la part des autres financeurs publics. Bon, on a eu du mal à le savoir. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait une vision réelle. Enfin, on sait qu'on est autour de 30-32% de cofinancement, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la commune. Mais on a mis beaucoup de temps à avoir cette information, notamment, je pense, parce que le chiffre étant très faible, l'idée, c'est de ne pas l'afficher, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a, c'est le projet majoritairement porté par la commune. Il y a peu de financement.
Il y a très peu de cofinancement. Le budget est porté par la commune à 70%, ce qui veut dire que la commune va faire un emprunt assez important pour financer ce projet. Et moi, je pense que par rapport aux priorités que nous, enfin, en tout cas, par rapport à nos priorités, nous, celles qu'on voyait, c'est qu'on en sentait remonter la population. Il semble qu'avec cet argent, on aurait pu faire autre chose, notamment une maison des associations, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui n'ont plus de locaux ou qui ont des locaux assez vétustes et qu'il aurait été souhaitable d'avoir une belle maison des associations.
D'ailleurs, à ce propos, on peut noter que l'association Le Locataire, qui fournit une prestation de service public absolument non subventionnée par qui que ce soit, propose à d'autres associations de louer un bureau, c'est-à-dire une table, au jour, même à la demi-journée, avec internet et téléphone. D'ailleurs, ils souffrent beaucoup parce que sans subvention, c'est relativement difficile.
Nous, par rapport à la vie associative, je crois que c'est très important. Il doit y avoir entre 80 et 90 associations sur 10. Il y en a qui ne demandent pas de locaux, qui se réunissent une fois par mois, une fois par semaine, qui se font prêter une salle municipale ou qui se réunissent chez les uns, chez les autres. Mais il faut voir que la vie associative, c'est quand même ce qui nourrit la vie sociale du Diwa, ce qui fait cette richesse. Et puis, c'est aussi des emplois. Je pense à l'association LADES qui a 120 salariés, qui est logée actuellement dans un local inaccessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées. Et ce serait quand même minimum de reconnaissance que de leur donner un local correct, voire même exemplaire. On pourrait construire ou aménager quelque chose où on aurait des coûts de fonctionnement très faibles et ça faciliterait beaucoup la vie des associations.
Parce que la mairie possède-t-elle encore des bâtiments réaffectables ?
La mairie possède des bâtiments municipaux, elle possède des terrains, puis après elle peut acheter des terrains. C'est une question de volonté politique, hein, de choix. Quand on met, je ne sais pas le budget sur la place, mais ça va être aux alentours de 2 millions d'euros, une partie pour l'eau, une partie pour l'assainissement, mais une grosse partie sur le budget principal, on aurait pu faire le choix de mettre cet argent sur une maison des associations ou sur l'aménagement du boulevard ou sur l'agrandissement de la cantine scolaire qui déborde d'enfants en ce moment. Enfin voilà, il y a des choix politiques et on n'a pas toujours les mêmes choix.
C'est un fait.
Et c'est la démocratie. Hein. Et je dois dire que nous, on est conscients qu'on a perdu les élections. Donc ce n'est pas nous qui faisons les projets de la municipalité pendant les 5 ans du mandat. Mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer de faire avancer le débat, rappeler nos choix, et puis ensuite, dans 2 ans maintenant, les Diwa choisiront.
On parlait de bâtiments publics ou pas récemment, et de loger ou non des associations, voire des entreprises, hein, parce que j'ai cru entendre dire qu'il y avait une zone artisanale qui était un petit peu en cours de construction. Mais où en sont les discussions sur le PLU en ce moment ?
Alors, le PLU, d'abord, c'est le plan local d'urbanisme. Il est révisé régulièrement. Il y a eu un projet de PLU qui a commencé sous le mandat d'Isabelle Bizoire. Donc, ça consiste à définir sur 10 les zones qui seront constructibles, les zones qui sont protégées, les zones qu'on voue à l'économie, zones artisanales, à définir différentes zones comme ça. Il est adossé à la ZPPUP qui s'appelle aujourd'hui l'AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et donc ça s'élabore dans des groupes où il y a des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition. C'est un travail très lourd parce que c'est un document où toutes les parcelles cadastrales sont inscrites et doivent rentrer dans une zone protégée, pas protégée, naturelle, agricole. Donc c'est un travail très long, très compliqué, laborieux. Sur l'ensemble du document, nous, on y était favorable au document qui avait été mis en œuvre. À 2-3 exceptions près, on s'était abstenu puisqu'il y avait le tracé de la déviation qui passait à travers les Perriers, qui était encore inscrit au PLU puisqu'il y avait une DPU, déclaration d'utilité publique, DUP, excusez-moi. Donc on s'était abstenu, mais sur l'ensemble du programme, on était d'accord. Ça ouvrait de nouvelles zones constructibles, ça ouvrait une zone artisanale. Après, en cours de mandat, il peut y avoir des modifications, des révisions simplifiées. Il y en a une notamment sur le Martouret, avec un projet de construire un hôtel 4 étoiles ou des seigneuriales ou des choses comme ça dans la zone en bas du Martouret, où nous, on est plutôt contre, puisqu'on pense que il y a le centre du Martouret qui a une association avec une trentaine d'emplois à l'année équivalent temps plein, et qu'il faut soutenir cette association, lui permettre de faire ses activités. Il y a plus de 300 enfants l'été, donc ça ne nous semble pas très compatible avec de l'hôtellerie ou des lotissements seigneuriaux, dont en plus on n'a jamais vu vraiment ce que ça pouvait être. Après, on a exprimé un point de vue différent sur la zone artisanale, où on est pour une zone artisanale. La zone artisanale actuelle, les réserves sont de 9 hectares et le maire voulait réserver 20 hectares. Donc c'est 20 hectares sur des terres agricoles. Et il y avait eu une discussion avec les agriculteurs qui étaient d'accord pour céder des terres pour une zone artisanale, puisqu'on doit quand même avoir un développement économique sur 10, sinon la population s'en va et on se retrouve avec du chômage, enfin manque d'activité. On a obtenu, notamment avec le soutien de l'État, d'avoir une zone qui fasse sur le plan 9 hectares, en réalité 3 hectares et demi, où actuellement se développe une zone artisanale sous compétence communauté de communes, qui, une fois que la zone sera finie, sera remise à la commune de Die. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est des dossiers un peu compliqués.
Donc en fait, grosso modo, le PLU, alors où est-ce qu'il en est alors ? Quand tu dis qu'il évolue en cours de temps, comment ça se passe ?
Le PLU, à un moment, il est figé, voté, c'est-à-dire il est proposé à l'enquête publique, à la population, qui peut faire des retours, dire qu'il n'est pas d'accord sur telle zone ou telle zone. C'est très important parce que parfois, quand on regarde un PLU dans son ensemble, on ne peut pas voir tous les détails. Et la population, elle, peut aller regarder sur une parcelle, un chemin, une zone, si leur demande, si la réalité correspond bien au plan. Ensuite, le commissaire enquêteur valide ou pas, prend part des observations, fait modifier le PLU par la commune selon les observations, et ensuite c'est voté en conseil municipal. Donc après ce document, il est valide. Il sert très concrètement à faire la politique de l'urbanisme, accorder les permis de construire, etc. Mais ensuite, il peut arriver que d'autres projets arrivent sur la table et qu'il y ait besoin de modifier le PLU. Donc on modifie juste sur une partie. Et ça nécessite, alors selon les procédures, à nouveau une enquête publique, à nouveau une validation du conseil municipal. Il y a des procédures plus compliquées, des procédures simplifiées, je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc ça peut évoluer en permanence. Mais en gros, le document qu'on a quand même, c'est pour les 10-15 prochaines années.
Très bien, mes messieurs. Merci d'être venus à la radio vous exprimer. Hein, et que vive la démocratie.
Eh bien, merci de nous avoir reçus.
Oui, merci à Radio Die de nous avoir reçus.
Et puis donc, quand vous le sentez nécessaire, n'hésitez pas à nous contacter pour proposer de faire partager vos convictions à la population.
Très bien, merci.
Merci, au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.